Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est midi juste à Kinshasa, 13h à Bouérémana, au Nord Kivu. Voici les titres de ce journal. Pas de repli à la date limite ce 15 janvier 2023. Des éléments du M23 de ses positions initiales dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, tels que recommandés par la feuille de route de Luanda. Le constat est fait par plusieurs acteurs sociopolitiques de la province du Nord Kivu. Dans le Kwilu, les opérations d'enrôlement des électeurs perturbent les calendriers scolaires dans certaines écoles de la ville de Bandundu. C'est ce qu'affirme avec inquiétude un chef d'établissement scolaire. L'invité de ce journal est le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la région de Beni et la partie sud du territoire d'Irumu. Le lieutenant-colonel Marc Razoukai parle de la situation qui prévaut dans la région de Banandé-Kainama, actuellement en perturbation des activités scolaires. Nord Kivu, pour commencer, initialement prévu pour ce 15 janvier 2023, la date limite du retrait du M23 dans les zones occupées en territoire de Rutshuru et Nyiragongo, aucune avancée significative n'est observée sur terrain. Constat fait par plusieurs acteurs sociopolitiques en province qui dénoncent la violation des recommandations issues de la feuille de route de Luanda. Le M23 devrait à ce jour du 15 janvier s'être replié dans ses positions initiales de Sabinyo et Tianzou, côté congolais, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Le point avec vous, Sifa Maguru.
Pour la société civile thématique Bonne Gouvernance, à l'expiration de ces délais ce dimanche 15 janvier, il s'observe que les M23 ne s'est toujours pas retiré des positions qu'il occupe, à part un retrait qualifié de façade par un acteur de la société civile sur quelques positions, notamment Kibumba Erumangabo. La société civile souhaite que, dès ce lundi 16 janvier, les chefs d'État de l'EAC instruisent la force régionale d'appuyer les fardes pour qu'une offensive soit déclenchée contre l'M23 en vue d'obliger ces mouvements rebelles de retourner dans ses positions initiales. Rappelons que suivant les recommandations de la feuille de route du 23 novembre 2022 à Luanda, la M23 devrait à ce jour du 15 janvier se retirer de toutes ses positions conquises pour se replier vers les villages entre autres Mbuzi, Nkokwe et Sabinyo. De son côté, la force régionale devrait déjà se déployer à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja avant la reprise des consultations politiques entre le gouvernement et les groupes armés. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Nord Kivu encore, une accalmie précaire est toujours observée ce dimanche matin sur toutes les lignes de front en territoire de Rutshuru, même si la situation reste incertaine. Certaines sources locales en groupement Binza signalent un mouvement des éléments du M23 qui aurait quitté Nyamilima pour se concentrer vers Kisharo au sud sans autre précision. Cependant, dans la cité de Kiwanja, la population dit observer ce dimanche matin des colonnes de rebelles visiblement en patrouille, mais personne ne sait pour quel objectif, indiquent nos sources. En revanche, dans le groupement Tongo et Rugari, la population s'inquiète toujours des exactions commises par ces rebelles. Les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur à Bambo appellent l'ONU à travers la MONUSCO, l'UE, l'EAC et d'autres instances à s'impliquer pour faire cesser ces massacres contre les civils non armés par le M23. Isaac Kibira explique.
Dans les villages de Kasali, Kazaroho, Kanyangiri, la population, en tout cas pour accéder à ces champs, devient très difficile. Les militaires de M23 tendent des embuscades un peu partout. Alors, à cause de la faim, un habitant qui sera au champ pour aller s'approvisionner des produits agricoles, en fait de trouver à manger, les M23 les interceptent et les arrêtent et les tuent. Le vendredi, on a tué 3 personnes. Ils étaient au nombre de 4. Une maman a été relâchée, tabassé, on a tué son mari à sa présence. Ils arrivent là-bas, ils rencontrent des cadavres un peu partout dans les champs, dans les collines qui surplombent Kanyangiri, Kasali, Runzenze, Grefamou, un peu partout dans les Kazaro. En tout cas, il y a des corps. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans des collines là-bas, dans les champs. Il a monitoré au moins 16 corps sans vie. Voilà donc ce que nous sommes en train de décrire, le comportement de M23 qui est en train de massacrer la population aussi et au vu de toutes les organisations mondiales qui sont représentées ici à Goma.
Signalons que du côté de Bouiza, en chefferie de Bichoucha, proche de Massissi, la société civile affirme également une accalmie depuis 3 jours dans cette partie, alors que toutes les forces conservent leur position. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs perturbent les calendriers scolaires dans certaines écoles. C'est ce qu'affirme inquiet un des chefs d'établissement scolaire de la ville de Bandundu dans le Kwilu. Selon lui, des enseignants passent plusieurs heures, voire des jours, pour se faire enrôler, abandonnant ainsi les élèves. Le directeur Jeff Mbao demande aux autorités de permettre aux enseignants de s'enrôler en premier afin de regagner les classes au plus vite. Requête rejetée par la CENI Kwilu, les enseignants n'étant pas des personnes vulnérables pour qu'on leur accorde cette priorité. Irène Boma nous fait le point.
Nous sommes à l'école primaire Bolondo, une école conventionnée protestante et vraie dans la ville de Bandundu. Dans certaines salles de classe, les enseignants ne se sont pas présentés et les élèves sont abandonnés à leur triste sort. À en croire les chefs de cet établissement scolaire, ces enseignants absents se sont rendus dans le centre d'inscription de la CENI pour se faire enrôler. Le directeur Jeff Mbao pense que cette opération d'enrôlement des électeurs s'effectue très lentement, perturbant ainsi les activités scolaires.
Les enseignants partent pour se faire enrôler. Ils font là-bas 5, 6, voire une semaine. Les enfants sont abandonnés. Pendant tous ces jours, il n'y a pas de cours. Je pense que l'enrôlement est en train de perturber les calendriers scolaires. Ça, il faut le reconnaître. Comme il y a la lenteur dans des centres d'enrôlement. Alors, je demande aux autorités de trouver une solution pour les enseignants.
Joint à ces propos, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, Jean-Robert Mouyens, appelle les écoles à prendre des dispositions pour ne pas paralyser les enseignements.
Les enseignants n'ont qu'à prendre les dispositions nécessaires pour se faire enrôler comme tout le monde.
Pour Jean-Robert Mouyens, les enseignants ne sont pas parmi les catégories de personnes priorisées par la CENI. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, trois jours après l'incendie qui a ravagé le marché des vivres de Mayangosé, le plus grand de la ville de Beni. Les vendeuses sont toujours dans la désolation. Hier samedi, les spectacles étaient toujours chaotiques. L'une des vendeuses demande au gouvernement ainsi qu'aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide pour reconstruire ce marché. Julienne Moulonda est au micro de Jean-Tobi Okala.
C'est traumatisant vraiment, il n'y a pas à dire, tous les marchés brûlés. Nous laissons nos affaires à l'extérieur, même ceux qui étaient dedans, où tous les dépôts sont brûlés. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Nous sommes là donc on n'a pas encore eu de l'aide. Le maire de la ville nous a dit d'attendre, il va construire. Maintenant nous sommes en train de voir comment il va construire pour nous, mais on n'a pas à faire vraiment. J'ai tout perdu vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Même en parlant ici, vous pouvez me voir, le cœur n'est pas vraiment à sa place. On est traumatisé. On ne sait pas si on va encore se retrouver. La solution, nous attendons seulement au gouvernement. Si le gouvernement ne nous aide pas, là, on n'a pas à faire. Donc, on est main vide. On n'a pas là où commencer et là où terminer. Ou bien, celui qui a un bon cœur et il a des moyens, il peut construire pour nous des encarts. Et s'il y a des moyens pour nous aider avec un petit fonds pour démarrer, il peut le faire. Nous sommes carrément bloqués. Nous sommes là seulement pour faire sortir des déchets et voir si le gouvernement va penser pour nous quelque chose, mais on est bloqués.
En Ituri, les députés provinciaux réclament leurs émoluments de 19 mois au gouvernement provincial. Ils disent avoir fait le rapport, même au Premier ministre, lors de ses visites en Ituri, mais sans succès. Conséquence, la plupart vivent dans des conditions difficiles. De son côté, le chef de l'exécutif provincial indique que les recettes de la province sont faibles à cause de l'insécurité et de l'incivisme fiscal pour faire face aux multiples défis pour le développement de la province. Des détails avec Isaac Remouyopi.
Selon les députés provinciaux, le gouvernement provincial doit verser 3 millions de francs congolais mensuellement à 48 élus de l'Ituri, conformément à l'édit provincial. Cependant, depuis l'instauration de l'état des sièges, ils sont privés de leurs droits. Toutes les réclamations faites au gouverneur sont restées vaines. Ils ont fait les rapports au Premier ministre lors de ses deux visites à l'Ituri. Ces derniers ont instruit le gouverneur de payer leurs subsides mais avant. Le député Assamba Eli de la ville de Bounia.
Nous sommes impayés pendant 19 mois de nos subsides. Le Premier ministre était venu ici. Le Premier ministre est arrivé à Cor pour la deuxième fois. Nous avons donné encore les rapports. Le Premier ministre était étonné de voir comment est-ce qu'il avait instruit au gouverneur de donner nos subsides. Le gouverneur n'a pas tapéré.
Un autre député, Eli de Djougou, dénonce qu'il qualifie de mauvaise foi du gouverneur car la province génère beaucoup de recettes. Ali Madikanga.
3 millions de francs congolais, c'est payé quand même pour une province très riche comme l'Ituri. Au niveau de la DGRP, tout marche normalement. Où est-ce qu'il amène cet argent?
De son côté, le gouverneur déclare qu'il faut 80 000 dollars chaque mois pour les subsides des députés provinciaux. Ce qui est difficile car les recettes sont faibles face aux multiples besoins. Le général Johnny Luboya Kachama l'a dit au cours d'un point de presse.
Les subsides des députés.
Mais ça vient justement des taxes. C'est eux qui demandent aux gens de ne pas payer.
Ces députés disent être voués à la misère car même leurs émoluments dus par le gouvernement central ne sont pas payés régulièrement. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les enseignants de la ville de Bassankoussou, à plus de 200 km au nord-est de Mbandaka, ont marché hier samedi pour dénoncer le non-paiement de leur salaire par la Caritas depuis novembre 2022. Conséquence, nombreux ont passé les festivités de fin d'année dans la méditation. Certains affirment avoir été déguerpis des maisons par leurs bailleurs. D'autres ont vu leurs enfants chassés de l'école. À l'issue de leur marche, un mémorandum a été déposé à l'administrateur du Bassankoussou. Le président de l'intersyndicale de l'EPST Équateur 2, Yvon Bolongola Lotoua, explique au téléphone de Paul-Richard Malingela.
Nous avons fait environ 10 mois. Les janvier, jusqu'à présent, ne sont pas encore motivés. Nous sommes fait dialogue avec les services attitrés à 5 reprises.
Service.
Par conséquent, nous sommes descendus dans les routes pour faire la manifestation de notre marche en déclarant notre salaire. Nous avons fait 2 mois. Nous avons aussi des élèves aussi étudiés. Les étudiants, il y a tous ces étudiants qui n'ont pas passé les examens à cause de l'argent. Et nous avons aussi d'autres parents qu'on a chassés dans des maisons à cause de l'argent. Raison pour laquelle nous déclarons à votre haute hiérarchie de porter aide à ce que nous puissions être payés comme tout autre. Comment est-ce que l'argent est déjà sorti à la banque et ici nous ne sommes pas payés. Raison pour laquelle nous réclamons l'argent. Et ensuite, nous déclarons la résiliation avec l'IFOD parce que c'est l'habitude, chaque fois nous paye 2 mois, 2 mois. Et le salaire a un caractère alimentaire. Pourquoi 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois? Raison pour laquelle nous, l'intersyndicale de nous déclarons une désiliation avec cette banque.
Ici à Kinshasa, l'église du Christ au Congo, ECC, rejette toutes les allégations faisant état de la spoliation d'une partie de la concession de l'école Lisanga. Cette mise au point est du porte-parole de l'ECC qui appelle les parents d'élèves de l'école primaire Lisanga au calme et à saisir les organes compétents de l'église. Selon le pasteur Eric Nsenga, l'ECC exerce un droit réel sur toutes ses concessions et n'a jamais refusé les revendications de ses partenaires. Il ajoute même qu'une commission de crise a été mise en place à cet effet. On écoute le pasteur Eric Nsenga au micro d'Alain Hirung.
J'aimerais ici fixer l'opinion sur 3 choses importantes en rapport avec la crise qui s'observe au sein de l'école Lisanga. La première des choses, que l'Église du Christ au Congo exerce un droit réel sur toutes ses concessions, en l'occurrence la concession Lisanga. Elle a un droit exclusif, un droit absolu et un droit perpétuel. Donc, de ce point de vue, nul ne peut remettre en question sa qualité et même ses compétences d'agir en tant que telle. La deuxième des choses, c'est insister sur le caractère juridique de l'Église de Christ au Congo. Et je voudrais ici informer à ceux qui ne le savent pas et rappeler aux uns ou aux autres que l'Église est régie par un cadre juridique. Et c'est comme pour dire, s'il y a des revendications fondées, ce ne serait pas dans le bruit des médias que cela se passerait. Ce sont les organes compétents qui vont recadrer les choses ou qui vont suivre ou corriger les erreurs. Donc, tant qu'aucun organe de l'Église ne s'est prononcé, ce n'est pas un parent d'élève, ce n'est pas un groupe de parents qui vont ici se substituer aux organes de l'Église et commencer à porter haut des revendications sans fondement aucun. La troisième des choses, c'est de dire que l'Église n'a jamais refusé les revendications de ses partenaires, les parents des élèves qui sont là.
Et pour rappel, la semaine dernière, certains parents d'élèves de l'école Lisanga ont manifesté leur mécontentement en parlant de spoliation d'une partie de cette école suite à des constructions qu'ils qualifient d'anarchiques au sein de cette concession. Pendant ce temps, au Kasaï oriental, plus de 20 maisons qui longeaient le ravin situé au quartier Nkonga dans la commune de la Mouya ont été englouties après les pluies qui se sont abattues sur la ville de Mbujimayi. Une tête d'érosion avance dangereusement au point de couper en deux l'avenue Kalonji en plein centre-ville de Mbujimayi. Le gouverneur des provinces ainsi que les responsables de l'office de voirie et drainage se sont rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Des explications avec Esther Ndalafina.
La vingtaine de maisons englouties sont celles construites de part et d'autre du ravin qui coupe actuellement une partie du quartier Konga en face du grand magasin IAC. Vu la progression du ravin, certains habitants détruisent seuls leurs maisons pour récupérer certains matériaux utilisés lors de la construction. Ils demandent au gouvernement provincial de lutter pour stopper la progression de ce ravin. Explication de Annie Manyonga.
Nous sommes en danger. Nous dormons avec la peur au ventre. Beaucoup de maisons sont englouties. Certaines personnes dorment à la belle étoile. Où irons-nous?
À moins de 100 mètres de ce ravin se trouve une école primaire dénommée Deborah School. Antoine Nyembo, un des responsables de cette école, s'inquiète.
Il y a un ravin qui risque à détruire même l'école. Les enfants font un détour pour arriver ici. Et puis, il y en a même qui, au lieu de venir directement à l'école, ils vont là pour jouer. Nous demandons à notre gouvernement provincial de nous aider de façon à ce que les l'école ne soit pas détruite.
Après la visite effectuée sur ce site avec le gouverneur de province, Martin Chipama, PCA de l'OVD, dit attendre les moyens pour arrêter la progression de ce ravin.
ONER va nous donner l'argent 2022 qu'il n'a pas encore donné. Si on nous l'envoyait, nous pouvons déjà commencer à bloquer cette érosion-là.
Signalons que les premiers travaux effectués sur ce même endroit datent de plus de 20 ans. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Cameroun, les élections sénatoriales auront lieu le 12 mars prochain. Les précédentes se sont déroulées en 2013 et en 2018. Dernier scrutin à l'issue duquel les RDPC avaient remporté 63 sièges et le SDF seulement 7, soit deux fois moins que lors de la première législature. Cette élection, suffrage indirect avec un collège électoral composé de membres des conseils municipaux et des conseils régionaux, revêt plusieurs enjeux.
L'invité.
L'invité de ce journal est le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF dans la région de Beni et la partie sud du territoire d'Irumu en Ituri. Le lieutenant-colonel Mac Azoukai parle de la situation qui prévaut dans la région de Banande-Kainama, actuellement en perturbation des activités scolaires. Le lieutenant Mac Azoukai s'entretient avec Marc Maroufimbou.
Colonel Mac Azoukai, bonjour.
Bonjour.
Des inquiétudes se font sur les probables perturbations des activités scolaires dans la région où les opérations conjointes se déroulent. Nous sommes dans la région de Banande-Kainama. Cette fois-ci, la société civile se pose la question, est-ce qu'il y a déjà des mesures prises pour sécuriser cette zone par l'armée?
Écoutez, nous suivons de très près la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Rumu. Il y a des mesures dissuasives que nous avons prises au niveau de force de la coalition FARDC-UPDF que nous ne pouvons pas médiatiser. Nous comprenons l'inquiétude et les soucis de la population. Comme je l'ai dit, nous recevons régulièrement des lettres de demandes de nos compatriotes qui demandent à ce que, puisque l'ennemi a migré à l'ouest de la nationale numéro 4, que les opérations conjointes aussi aillent jusque-là. Nous sommes en train de travailler au niveau de la coordination. Donc nous sommes conscients que d'ici là, il y aura la rentrée scolaire, il y aura l'enrôlement des électeurs. On pense qu'il est important que la population puisse garder contact avec nous, hein, parce que nous ne pouvons pas travailler sans cette population. Et si nous sommes arrivés au résultat que tout le monde applaudit aujourd'hui, c'est grâce au soutien de la population, c'est grâce à la collaboration avec la population et nous. Quand je dis nous, je vois les FRDC et l'UPDF. L'accueil que la population du territoire de Beni et de Rumu a réservé à l'UPDF, sincèrement, ça nous a requinqué le moral.
Après les dernières frappes FRDC-UPDF dans cette zone, on a constaté qu'il y aurait d'autres petites pochettes des EDF qui font maintenant peur à la population. Vous donnez quel type d'assurance à la population par rapport à ça?
La sécurité zéro n'existe pas. Un terroriste vivant constituera toujours une menace. Personne n'a dit que la guerre est finie, personne n'a dit que nous avons tout nettoyé au sud du territoire de Rumu. Il y a un travail qui est en train de se faire et nous demandons à la société civile qui nous soutient et aussi à la population de ne pas médiatiser les données qu'ils nous donnent. Parce que l'ennemi suit aussi les médias, l'ennemi est dans les réseaux sociaux. Donc s'il y a des positions ou bien s'ils sentent que l'ennemi est en train de se reconstituer quelque part, qu'ils donnent l'information directement au service, à l'armée au lieu de les médiatiser. Parce que médiatiser les informations sur l'ennemi, non seulement on l'informe, mais on s'expose aussi. Donc un travail est en train de se faire par rapport à tout cela. Nous avons ce souci-là, que les choses marchent. Et je pense que si on continue avec cette allure, nous allons certainement mettre fin à cette menace terroriste. Mais que les gens retiennent qu'un seul terroriste vivant est une menace. Voilà.
Les opérations conjointes FRDC-UPDF, ça s'est fait compiler aussi des sensibilisations pour que les jeunes puissent quitter la brousse et désarmer. Comment vous évaluez l'état des lieux de cette sensibilisation actuellement?
Oui, vous savez, la sensibilisation ne peut qu'avoir des l'impact que quand l'armée s'affirme sur le terrain. Les jeunes d'eux-mêmes sont en train de rentrer, ils ont compris que enfin c'est une aventure qui n'a pas d'issue. Ceux qui sont dans un petit groupe armé là, ils doivent savoir que d'ici là, on ne va plus parler d'eux. Et nous, comme je l'ai toujours dit, l'objectif des opérations militaires, ce n'est pas pour tuer les gens. C'est pourquoi nous, au niveau de la coordination des opérations conjointes, on ne fait pas trop attention au bilan humain. Parce que nous ne sommes pas venus tuer les gens, nous sommes venus restaurer la paix. Sinon, l'objectif des opérations conjointes, les deux chefs d'État ont décidé d'instaurer la mutualisation des forces pour, un, restaurer la paix, deux, développer la sous-région. Que les gens comprennent ça, que les opérations, c'est pour leur bien. Aujourd'hui, si on parle de la paix, c'est la population qui gagne. Et nous sommes prêts à courir derrière cette paix-là, quelle que soit l'humiliation. Et que les gens comprennent dans ce sens-là. Parce que les Ougandais et nous, nous partageons beaucoup de choses ensemble. Qu'on comprenne que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, il faut qu'il y ait la paix. Et s'il y a la paix, il y aura le développement et la jeunesse va se retrouver. Voilà.
Colonel Makazuka, il nous faut des remercier.
C'est à moi de vous remercier.
C'était l'invité de ce journal, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la région de Beni au Nord Kivu et la partie sud du territoire d'Irumu en Ituri. Le lieutenant-colonel Mark Azukai s'entretenait à Beni avec Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales des Radio Okapi.